Nous allons donc lire dans l'évangile de Luc, nous allons poursuivre ce que nous avons vu depuis plusieurs semaines, à savoir l'importance d'être prêt. Nous avons vu l'autre jour ce que c'était de veiller, et nous allons voir aujourd'hui qu'on ne peut pas veiller sans avoir une véritable foi. Donc l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 1er. Excusez-moi si je me tourne de temps en temps pour tousser. Voilà, pardon. Excusez-moi, c'est pas grave, mais enfin bon, c'est pas grave. Luc, chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Amen. » Et je vous rappelle que c'est signé Jésus, qui termine cette parabole. Une parabole, c'est une image terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. Donc il pose cette question, c'est une question qu'il pose à l'Église, c'est une question sérieuse. Quand il reviendra, donc ça concerne le jour où il va revenir chercher son Église, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre ? C'est lui qui pose la question. À partir du moment où c'est lui, c'est sérieux, c'est important. Et nous devons pouvoir répondre à cette question à la fin de cette prédication, dans demi-heure, 40 minutes. Vous devez absolument, nous devons absolument répondre à cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur ? Alors quelqu'un peut dire, mais monsieur Gros, si je suis là, c'est parce que j'ai la foi. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises. Il n'a pas dit d'ailleurs, quand le Fils de l'homme viendra, les gens seront-ils à l'église ? Les églises seront-elles pleines ? Les gens iront-ils au culte ? Non. C'est pas du tout la même chose. Le Seigneur pose une question beaucoup plus sérieuse. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Ce qui est important pour vous, ce n'est pas que vous appreniez de nouvelles choses. Moi, je peux, sincèrement, vous apprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire vous prendre des textes dans la Bible que vous n'avez jamais peut-être entendu, que vous n'avez jamais peut-être entendu les explications. C'est très, très, très intéressant. Je pense qu'on peut le faire, on devrait le faire. Mais au-delà de l'intérêt, de la joie, de l'autosatisfaction que nous avons à apprendre de nouvelles choses, je pense que d'abord, Dieu veut que nous entendions surtout ce que nous avons besoin d'entendre ou de réentendre. Et c'est Paul qui dit aux Philippiens, je ne me lasse pas de redire les mêmes choses parce que cela vous est, comment il dit ? Salutaire. C'est-à-dire que c'est lié au salut. Et si Dieu dit certaines choses, redit certaines choses, re-redit certaines choses, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas de nouvelles à nous enseigner, mais je crois surtout que c'est parce que, par rapport à notre salut, nous avons besoin de faire certains points. Donc, quand le Fils de l'homme viendra, vous croyez qu'il va revenir, le Seigneur ? Vous croyez vraiment que Jésus va revenir ? Est-ce qu'il va trouver la foi ? C'est une question auquel il faut que nous répondions. Parce que la politesse, quand même, la politesse, c'est ça. Je crois que nous, on est dans une société, tout le monde s'en fiche. Les gens, d'ailleurs, je le vois, des fois, vous posez une question à un gosse, il ne vous répond pas. Est-ce que ça va ? Le gosse, il passe sans... Parce qu'on n'a pas appris. Moi, je me souviens quand on était petit, quand un adulte nous parlait, on avait intérêt à répondre comme il faut. Mais on est dans une société, tout le monde s'en fiche. Et ça, c'est rentré dans le royaume de Dieu. Mais quand Dieu pose une question, ce n'est pas pour nous ennuyer. Quand il pose une question, elle est sérieuse. Ce n'est pas pour lui, c'est parce que nous, on en a besoin. Et si Jésus, après avoir donné cette parabole qui enseigne beaucoup de choses, bien sûr, après avoir fait une promesse extraordinaire, à savoir qu'il promet qu'il fera justice à ses élus. Les élus, ce n'est pas les croyants de nom. Les élus, ce sont véritablement les rachetés, ceux qui sont sauvés. Tout ça, on ne l'explique pas toujours, mais il y a une grande différence entre le croyant de nom et puis les élus. Il vient chercher les élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui vadrouillent, mais il y a peu d'élus, des gens véritablement qui obéissent à la parole de Dieu. Alors, il y a des chrétiens qui seront prêts, c'est Jésus qui le dit lui-même, il y a des chrétiens qui ne seront pas prêts. Les chrétiens qui ne seront pas prêts, c'est parce qu'ils auront pris à la légère les choses de Dieu. Les gens qui ont rétrogradé, ce qu'on appelle les fils prodigues. Quelqu'un un jour m'a dit, oh monsieur Gaulle, si les gens ils ont rétrogradé, c'est parce qu'ils avaient des problèmes. Alors j'ai dit, attends, parce que tu crois que nous, qu'on n'a pas rétrogradé, on n'a pas de problème? C'est ridicule. On ne rétrograde pas parce que il y a des problèmes ou pas de problèmes. On a choisi de suivre le Seigneur et de prendre en considération ce qu'il dit. Donc il y a des chrétiens qui ne seront pas prêts. Il y a beaucoup de croyants qui pensent qu'ils sont prêts. Parce qu'ils vont à l'église. Parce qu'ils se promènent avec la Bible sous le bras. Il y a des gens qui s'imaginent parce qu'ils se... Je me souviens de ce gars qui me disait, mais moi j'ai tout le temps ma Bible dans le coffre de ma bagnole. Ça me porte bonheur. J'ai dit, mais c'est de la superstition. D'ailleurs, 15 jours après, il y a eu un accident, j'ai dit, alors? Et alors? Ah ouais, il me dit, je commence à comprendre. Mais ce serait temps. Vous voyez comment les gens sont superstitieux. Ils se pensaient chrétiens, parce qu'ils croyaient en Dieu. Mais voyez, le Seigneur Jésus pose une question très sérieuse. Quand il reviendra, malgré le fait, vous avez vu, qu'il fasse une promesse extraordinaire, il fera justice à ses élus. Vous croyez que Dieu fera justice? Vous avez souffert. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Peut-être que vous avez subi, je ne sais pas moi, une agression. Vous avez subi peut-être un viol. Vous avez peut-être subi un divorce. Tout ça, ça n'a pas été réglé. Il y a des choses difficiles. Écoutez, je ne sais pas si ça se fera ici ou si ça se fera là-haut. Mais Dieu dit qu'il fera justice à ses élus. Voilà. Le procès de Jésus. Je pense à ça parce que chaque fois que je pense à ce verset, le procès de Jésus, est-ce qu'il était juste? Non, mais quand vous regardez comment on a accusé Jésus, c'est un procès, mais un truc de fou. Hein. Alors, et Jésus n'a pas réclamé justice. Quand il a ressuscité, il n'a pas dit, moi je veux qu'on refasse un autre procès. Aujourd'hui, on est dans une société de malades. Écoutez-moi, le Seigneur dit qu'il fera justice à tous ses élus. Si ce n'est pas ici, laissez-moi vous dire que ça sera plus tard. Mais il fera justice. Vous le croyez? Si vous ne le croyez pas, ben vous êtes malheureux, je vous le dis. Donc après cette promesse, il dit, voilà, mais pourquoi des gens ont perdu la foi? Pourquoi des gens en sont là, disent, ouais, mais moi si tu savais tout ce que j'ai vécu, mais t'es pas à ma place. Si tu savais tout ce que j'ai vécu, comment tu veux que je garde la foi? Vous croyez que ça tient debout cette affaire? Je pense que nous avons une responsabilité d'abord commune. Nous sommes des chrétiens et nous devons nous bénir les uns les autres. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, bénissez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous dans le sens de... Bah, ça veut dire portez-vous les uns les autres. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, supporter, ça a une autre connotation. Hein, qu'est-ce que je supporte? Non, supporter, c'est l'image d'un échafaudage qui soutient un mur. C'est vraiment, je le porte. Vous avez vu toutes ces les uns les autres. On doit s'exhorter les uns les autres. On doit vivre certaines choses. Mais si on ne vit pas avec Dieu, si on n'est pas consolé lorsqu'on traverse un deuil, est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un deuil? Oui, tous. Eh bien, quand on traverse le deuil, on a besoin de consolation. À partir du moment où j'étais consolé, Dieu va pouvoir m'aider à consoler quelqu'un d'autre. Parce que sinon, consolez-vous les uns les autres, ça n'a plus de valeur. Et tout ce que nous étudions nous permet, enfin, cette exhortation nous permet de comprendre qu'au-delà du fait que l'on soit prêt, au-delà qu'on ait une foi pour être prêt, Dieu veut aussi que nous nous aidions les uns les autres. On a besoin les uns des autres. Oui ou non? L'autre jour, j'ai lu qu'il y avait un gars qui était mort depuis des années dans un appartement. Des années, et que les voisins ne s'en étaient pas rendus compte. Des années pour vous dire la communion qu'il devait avoir. Mais c'est grave ça. Bon, ça peut, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais mes frères et sœurs, dans une église, on doit s'aimer les uns les autres. Et si notre foi n'est pas vivante, eh bien on sera comme dans une association quelconque, et c'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une vraie foi. Alors la foi des autres, c'est bien, mais il faut pas vivre que de la foi des autres. La Bible dit, le juste, il vivra par sa foi. Pas la foi, sa foi. Alors béni soit Dieu pour la foi des autres. Peut-être que vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a vraiment la foi. Vous le savez si celui qui est assis à côté de vous, il a la foi?
Oui.
Vous le savez? Regardez celui qui est à côté de vous. Allez, regardez. Est-ce que tu as la foi? Demandez-lui. Est-ce que tu as la foi? Eh bien oui, mais c'est important. Pas la croyance, hein. Parce que vous allez peut-être... Les gens, vous voyez, qui sont rapides, enfin, ou pas trop, justement. Mais si on est là, monsieur Gauss, c'est qu'on a la foi. Non. Croyez-moi, c'est pas comme ça. Mais c'est bien d'avoir des frères et des sœurs qui ont la foi. Non? D'avoir une épouse qui a la foi, un mari qui a la foi, c'est une grande bénédiction. Mais Dieu, il sait dans quel état je suis ce matin. Il le sait. Est-ce que Dieu sait dans quel état spirituel vous êtes? Oui, il le sait. Et il sait si vous allez bien. Eh bien, si vous allez bien, ça va vous fortifier, vous allez être encore mieux. Mais si ça ne va pas, vous croyez que Dieu va vous laisser en plan comme ça et qu'il va vous laisser partir à valo dans n'importe quelle direction? Non, il veut vous arrêter au travers de cette question. Et nous devons pouvoir répondre. Nous devons pouvoir répondre à cette question par rapport à la foi. Alors, il y a un autre texte qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé cette prédication. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, on peut prendre dans Marc. Dans Marc, au chapitre 4. Marc, chapitre 4, verset 35. Le Seigneur qui provoque... Vous allez me répondre, tiens. C'est le Seigneur qui a provoqué une tempête ou c'est le diable? Tiens donc. Alors, Marc chapitre 4, verset 35. Vous connaissez cette histoire. Vous savez, hier je priais. Ne le dites à personne ce que je vais vous dire. Hein. Vous le direz à personne. Hein. Je vous fais confiance. Vous ne le dites à personne. J'ai dit, Seigneur, j'espère que quand on sera au ciel, il y aura des vidéos de ces histoires. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous croyez que ça... Est-ce que Dieu peut, quand on sera au ciel... Mais ça, c'est entre parenthèses, ça, c'est pas inspiré, ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous croyez que c'est possible que quand on sera au ciel, on puisse revoir ces histoires, comme sur une vidéo? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que pour Dieu, ça ne doit pas être un gros problème, hein, de nous les remontrer. Mais enfin, bon, je ferme la parenthèse. Je suis un peu malade en ce moment. Hein. Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» C'est pas beau ça? Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Vous pouvez dire amen. Vous croyez que ça s'est passé, ça, vraiment? Une autre histoire, dans Matthieu 14, encore plus à visionner, encore plus à visionner. Une autre tempête, en plein milieu de la nuit. Jésus n'est pas là. Jésus les a laissés partir tout seuls. Matthieu 14, 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Fallait y penser. Hein? Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus, et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu », vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Amen. Vous le croyez ? Est-ce que vous... Moi, j'espère qu'il y aura la vidéo. Je suis désolé, mais j'espère. Quelle histoire ! Quelle belle histoire ! Je ne sais pas ce que les autres ont pensé quand Pierre a dit « Si c'est toi !» C'est sûr que ça, c'était extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous le croyez que ça s'est vraiment passé ? Est-ce que vous réalisez la bénédiction de cette affaire ? Et Pierre, je suis sûr que les autres ont dû dire « Mais il n'y a que lui pour penser un truc pareil. » « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et Jésus ne va pas faire un discours de 3 mois. Jésus va dire un mot. Viens. Et Pierre sort de la barque. Bon, c'est une affaire de fou. Et il marche sur l'eau. Et comme il voit quand même que c'est compliqué, il commence à s'enfoncer. « Ah, Seigneur, sauve-moi !» Et cette main de Jésus qui vient, qui lui a... C'est extraordinaire. Jésus n'a pas dit « Ah, tu te débrouilles maintenant. » Et Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Dans la première histoire, c'est pareil, mais pourquoi où est votre foi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus aurait pu dire, ah, vous avez bien fait de me réveiller, c'est bien. Non. Jésus leur dit, où est votre foi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes confrontés tous à des tempêtes, tous, oui ou non ? Tous. Et des tempêtes que Dieu permet. Quand Jésus va dire à Pierre qu'il se paraît meilleur que les autres, il va lui dire, Jésus va dire, tu sais, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais puis il s'adresse à Pierre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus aurait pu dire, écoute, le Satan va te cribler, va essayer de te cribler, mais moi j'ai prié pour qu'il ne le fasse pas. Est-ce que Jésus aurait pu empêcher ? Bien sûr. Il a permis l'épreuve pour que Pierre apprenne certaines choses. Mais il lui dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit l'importance que nous puissions prier les uns pour les autres. Nous aimer les uns les autres, parce que l'Église, ce n'est pas du chacun pour soi. Il y a des gens qui disent, oh, monsieur, j'ai un problème, mais je n'en parle pas. Moi, vous savez, eh bien, c'est tort. C'est un tort. Vous l'interprétez comme vous voulez, la discrétion, vous n'ennuyez personne, c'est peut-être sympa, mais ce n'est pas la vie de l'Église. Dans l'Église, ah, bien sûr, si c'est pour juste, c'est juste parce que vous avez un rhume, bon, mais... Mes frères et sœurs, l'Église, c'est prier les uns pour les autres. C'est ça l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne devez pas avoir honte de dire « Prie pour moi, priez pour moi, je traverse un moment difficile, je suis dans une tempête, je suis dans le deuil, je suis dans une épreuve, j'ai perdu mon boulot. » Est-ce qu'on ne devrait pas le faire, franchement ? Vous ne pensez pas qu'on devrait le faire ? Si, bien sûr, comme je l'ai dit, on ne va pas demander n'importe quoi. On ne va pas demander n'importe quoi. Mais je pense qu'on doit prier les uns pour les autres. C'est pour ça que ces questions que le Seigneur pose, soit dans l'épreuve, soit dans une situation personnelle, soit lorsqu'on va traverser, soit d'une manière générale, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Il y a des gens qui ont perdu la foi, justement, parce que ils ont dit, voilà, moi je ne comprends pas, j'ai traversé ça et ça, c'est pas normal, si Dieu s'occupait de moi, j'aurais jamais traversé toutes ces galères. Qui on est pour parler comme ça ? Bien sûr que si on pouvait s'en éviter certaines, quoique certaines, on pourrait s'en éviter. Parce qu'il y a des épreuves qui viennent par la souveraineté de Dieu, parce que Dieu veut qu'on les traverse, mais je peux vous dire qu'il y a des épreuves qui viennent aussi parce qu'on s'y est mis dedans. Oui ou non ? On pourrait donner des multitudes d'exemples de personnes qui se sont retrouvées contre un arbre parce qu'ils avaient bu. Oui ou non ? Ne me dites pas, et encore, quand c'est qu'un arbre ? Mais quand on a tué quelqu'un d'autre, et qu'après on dit, oui, si Dieu existait, ça ne se serait jamais passé, je pense que, je crois qu'il faut être un peu plus sérieux que ça. Le Seigneur, il sait notre foi. Dans la première affaire, ils sont dans la barque, Jésus dort. Cette tempête est provoquée, Dieu la provoque, moi je le crois. Le permet, en tous les cas, c'est sûr. Et quand ça arrive que ça craint, il se dit, il faut le réveiller. Il dort, c'est pas possible. On va mourir. Demain, sur le Jérusalem Post, 13 hommes sont morts dans la mer de Galilée. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Il le réveille. Et Jésus leur dit pourtant, où est votre foi? Alors cette prière, c'était une prière de foi ou c'était juste une prière? Les stagiaires. Moi, je pense que c'était juste une prière. Mais est-ce que ça valait la peine de le réveiller?
Oui.
Et je voudrais m'adresser à ceux qui, justement, sont en vrac au niveau de leur foi. Ça arrive, des fois. Ça arrive. Vous avez entendu la prophétie pour celui qui doute. Celui qui doute, l'apôtre Jacques, il est formel. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Quand le Seigneur s'adresse à quelqu'un qui doute, c'est que ça craint. Et c'est que c'est temps de réagir. Mais même si on est dans la crainte, dans la tempête, il n'empêche que l'on pourrait commencer par réveiller le Seigneur. Alors quelqu'un pourrait dire, ah, monsieur Gou, parce que je l'entends chaque fois ça. Monsieur Gou, mais la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. D'accord, mais c'est une façon de parler. Réveille Jésus, bien sûr que Dieu ne dort pas. Et il règne jour et nuit. Il n'y a personne qui réveille Dieu. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort, son intelligence n'a pas de limite. Mais le fait de réveiller, en fin de compte, ce n'est pas un réveil du Seigneur. C'est nous qui nous réveillons et qui commençons à dire, mais Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Je ne peux pas rester dans cet état. Je ne peux pas rester dans cette tempête. Oui, ce n'est pas Dieu qui dort. C'est nous qui dormons. Vous comprenez? Mais ça revient à la même chose. De pouvoir se réveiller, même si on n'a pas une grande foi. Oh, moi, je ne prie plus. Je l'ai entendu, ça. Tous les gens qui m'ont dit ça sont tous perdu. Tous. Parce que quand même, quelle grâce que Dieu a institué la prière. Vous ne trouvez pas que c'est une bénédiction la prière? Oui ou non? Mais vous vous rendez compte qu'à n'importe quel moment du jour, de la nuit, on peut parler au Seigneur, on peut lui parler sans parler. On peut lui parler quand on pleure. Est-ce que ce n'est pas David qui a dit « Tu écoutes la voix de mes larmes ». Mais ça ne vous fait pas du bien quand vous ne pouvez pas prier à haute voix, que même vos soupirs, Dieu il les interprète. Ça ne vous rassure pas? Ça vous est jamais arrivé de pleurer? Et peut-être que mais pleure pas, sois un homme! Mais moi je sais que Dieu, il sait ce que ça veut dire. Alors ça vaut la peine, dans la situation où quelqu'un se trouve, de dire mais il faut que je me réveille. Ça ne va pas être peut-être des prières de foi. Mais il faut que je commence à réaliser que de toute façon, ce qui est écrit dans la Bible, c'est sérieux. La Bible dit quand tu entres dans ta chambre, quand tu fermes ta porte, Dieu te voit et il t'entend. Vous le savez ça? Vous le croyez? N'importe où où vous soyez, vous pouvez prier dans votre cœur. C'est pas merveilleux ça? De là, vous êtes pas dans la rue. Seigneur, merci. Merci. Je vais pouvoir acheter du pain. Est-ce que c'est une grâce d'acheter du pain? Est-ce que c'est une grâce? Vous pouvez acheter du pain tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez acheter un peu de pain pour manger? Est-ce que vous pouvez dire merci au Seigneur? Oh, c'est normal, moi je bosse, moi. Vous savez, on est dans un monde compliqué. Un monde grave. On n'est pas dans un monde qui vit dans le péché. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On est dans un monde qui vit dans le péché et dans la rébellion. C'est pas du tout la même chose. La rébellion, vous en avez une idée avec ce qui se passe par rapport au barrage, enfin, pas aussi, mais pas un barrage, par rapport au lac qu'on essaie de faire à côté, là, dans le Tarn. Vous avez vu la tournure que ça prend? C'est pas trop mon habitude de parler dans mes prédications d'actualité, mais je pense que parfois on peut comprendre certaines choses. Là, nous avons affaire à un esprit de rébellion. Et la rébellion, c'est que ça attire la colère de Dieu. Vous avez vu tout ce qui se passe? C'est grave. Les pécheurs, écoutez bien mes frères et sœurs, écoutez bien. Les pécheurs ne peuvent pas se convertir parce qu'ils ne sont pas conscients de leur péché. Vous me suivez? Certes, il y a des gens... Vous leur parlez du sauveur, mais à quoi ça sert d'un sauveur? Ils ne sont pas conscients qu'ils sont perdus. Donc vous parlez d'un sauveur, ça les fait sourire. Donc il y a beaucoup de gens qui iront en enfer pour la seule et unique raison qu'ils n'auront pas compris qu'ils étaient perdus. Mais écoutez bien maintenant, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en plein dedans. Le problème du péché, c'est grave parce que ça empêche les gens de se qui veulent pas, enfin, qui veulent pas accepter. Mais le problème de la rébellion, c'est que les gens n'ont pas compris l'importance de l'obéissance. Et comme ils n'ont pas compris l'autorité, ils ne peuvent pas obéir. Mais tout a été organisé par l'autorité de Dieu. Tout. Tout fonctionne, tout dans le ciel et sur la terre. Tout fonctionne par l'autorité du céleste. Tout. Et ce que nous voyons est vraiment l'image d'une société malade, mais complètement malade, on peut dire cancérisée. Complètement. Parce que la rébellion est vraiment dans notre pays. En plus, les politiques, ils mettent leur graines dedans. Et ce problème de rébellion peut rentrer dans l'Église. Et nous devons faire attention à toutes les autorités. Bon, il y a l'autorité divine, mais il y a toutes les autorités déléguées. Un policier dans la rue, est-ce que c'est une autorité ? Ou est-ce que vous dites, moi je m'en fiche, je fais ce que je veux, je conduis comme je veux, bon, quand il y a les flics, je fais gaffe. Mais est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez ? Si vous fonctionnez comme ça, c'est que déjà vous avez un peu de rébellion dans votre cœur. Et mes frères et sœurs, ce matin, je priais pour la famille de ce jeune qui est mort. Vous avez entendu aux infos, il y a un jeune qui est mort. Je priais pour la famille, c'est un gars de Toulouse, je veux dire. Je priais pour sa famille, je dis, Seigneur, c'est lamentable mourir comme ça. C'est lamentable, c'est lamentable. Enfin, je veux dire, franchement, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Et un verset est venu à mon cœur, quand j'ai prié pour cette famille. Quand il est dit, dans l'épître de Jude, malheur à ceux qui ont suivi la révolte, à qui sont tombés dans la révolte de Corée. Quand Corée s'est révolté contre Moïse au nom de l'égalité, parce que ça, l'égalité, alors là, ça c'est un truc, ça c'est un truc qui est bien. Au nom de l'égalité, moi je ne me soumets pas à mon mari. Au nom de l'égalité, moi je ne me soumets pas à mon patron. Après tout, on est tous pareils. En plus, lui, il a un gros salaire. Hein. Au nom de l'égalité, je ne me soumets pas à mon pasteur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et je peux vous dire que ça, c'est un principe satanique. Et quand Corée, bon, il y a eu la révolte, il y a eu Dathan, Abiram, il y a eu plusieurs trucs du murmure du péché, bon, ça, ça allait mal. Mais à un moment donné, Corée, au nom de l'égalité, tout ça, vous le trouverez, je crois que c'est dans Exode 19 ou 16. Corée a pris la décision de dire, ouais, on est tous pareils, après tout, il n'y a pas que Moïse qui parle, et voilà, et Moïse, ben, demain on verra ce que Dieu va faire. Je vous fais remarquer que chaque fois, parce que si le soir, Corée était venu lui demander pardon, le problème aurait été réglé. C'est comme à Caïn, vous savez, quand il avait piqué des trous dans la tente, demain, si le soir il était, c'est moi qui ai piqué le manteau, etc., etc., ça, parce qu'il y avait des lois quand même qui expliquaient que quand on demande pardon, la punition elle est beaucoup moins lourde. Mais ils ont entendu, ils ont dit non, de toute façon c'est pas possible. Ils ont entendu. Et je pense qu'avec Dieu, il ne faut pas s'amuser comme ça. Quand Dieu nous parle, de suite il faut réagir. Et Corée s'est rébellé au nom de l'égalité. Il y avait un truc super, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça, je vous dis ça pourquoi. Parce que cette foi, parce que je ne sors pas de mon sujet, cette foi que Dieu attend, c'est une foi d'obéissance. Ce n'est pas une croyance mystique. C'est une foi d'obéissance à l'autorité, à Dieu et à toutes les autorités déléguées. C'est pour ça que si vous avez un patron, même s'il n'est pas facile, eh bien, il vous faut vous soumettre. Est-ce que Dieu peut vous former au travers d'un patron difficile ? Ben oui. Est-ce que Dieu peut vous former au travers d'un pasteur difficile ? Oui. Comment ça ? Vous avez dit oui, les jeunes. Ben oui. Mais bien sûr que Dieu peut utiliser n'importe qui au-dessus de nous pour nous former. Et il ne faut pas se rebeller. Mais ce qui s'est passé, parce que quand même Dieu a dit que le royaume des cieux, c'était le royaume des cieux, et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre l'Église. Et pourtant, quand Corée s'est rebellée, qu'est-ce qui s'est passé? Le séjour des morts s'est ouvert. Et il a englouti des chrétiens. Parce qu'on ne badine pas avec le péché, tout ça, on a tout le temps. C'est grave. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le péché, c'est très, très grave. L'enfer est rempli de gens qui ne se sont pas, qui n'ont pas pris au sérieux le péché. Mais la rébellion, c'est vicieux. Parce que c'est entré dans les églises. Et qu'il y a plein de chrétiens qui sont rebelles. Ils font ce qu'ils veulent. Et nous devons nous soumettre. Nous devons chercher là où nous sommes. Nous devons chercher à savoir quelle est l'autorité que Dieu a mis au-dessus de nous. On a tous une autorité au-dessus de nous. Et mes sœurs, bien sûr que c'est un sujet. Je pense que même dans les églises, on ne veut plus en parler de la soumission des épouses à leur mari, etc. Bien sûr, il y a tellement de... Tout est en vrac. Ça fait que toutes les femmes peuvent dire, mais comme mon mari m'aimera, comme Jésus aime l'Église, on en reparlera. Ça tient debout, ça. Mais je ne crois pas que c'est comme ça que Dieu va bénir. Je crois que chacun, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, nous devrions chercher sérieusement à savoir à qui nous devons nous soumettre. Parce que ce qui est en train de se passer dans le Tarn ou ailleurs, vous avez vu quand même comment hier on a jeté de l'acide sur les gendarmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est grave cette affaire. Bon, on baigne tellement là-dedans, il y a des morts, des gens qui se font égorger, tout ça. On banalise tellement la mort et la violence. Mais moi, je peux vous dire que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu va venir. Et si le Seigneur pose des questions par rapport à la foi, c'est sérieux. C'est pas juste, est-ce que tu crois, toi, tu crois, c'est bien. Toi, tu crois pas, bon, c'est pas bien. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a une autorité. Jésus avait l'autorité parce qu'il n'a jamais péché. C'est pour ça qu'il pouvait parler à la mère, tais-toi, et la mère écoutait. C'est, bon, ça nous dépasse, bon, mais ça nous montre aussi que Jésus est bien le Fils de Dieu. Il avait ce pouvoir de multiplier le pain. C'est quelque chose de beaucoup de scientifiques ne doivent pas le croire, parce qu'il faut pour multiplier le pain, il faut multiplier les atomes. Ça commence à être compliqué. Mais mes frères et sœurs, même Jésus, en tant que Fils de l'homme, j'y pense maintenant, s'est soumis au souverain sacrificateur, quand il s'est trouvé devant lui et qu'il a dit « Je te la jure, dis-moi si tu es le Christ », Jésus a répondu « Oui, je le suis ». Il s'est soumis. Devant Pilate, il n'a rien dit. Ce n'était pas les mêmes autorités, mais devant l'autorité spirituelle, il s'est soumis. Et nous devons, mes frères et sœurs, comprendre que la foi, c'est « Il faut demander à Dieu de l'aide ». C'est comme quand on parle sur la paix. Faites en tout temps toutes sortes de prières, ne vous inquiétez de rien et vous aurez la paix. Oui, mais si vous êtes dans le péché, vous pouvez prier tant que vous voudrez, la paix vous ne l'aurez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous inquiétez de rien, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, en toutes choses, faites, et la paix de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi la paix je ne l'ai jamais, je prie, tout ça c'est des blagues. Non, ce n'est pas des blagues, c'est que vous devriez peut-être être un peu plus sérieux avec les textes qui précèdent. Parce que la foi, si vous rencontriez le Seigneur dans la rue, imaginez, il faut donner des images. Et que vous lui dites, oh Seigneur, augmente ma foi, qu'est-ce qu'il vous répondrait? Lis la Bible. C'est pas ça qu'il vous répondrait? Mais je vous assure que c'est vrai. Il vous dirait, ben lis la Bible et tu auras la foi. Cette foi, elle est sérieuse, parce que c'est la foi qui amène à la bénédiction. C'est la foi, c'est l'obéissance. Vous savez, hier en préparant cette réunion, quand j'étais jeune pasteur, j'étais à Grouillé, une petite église où il y avait 30 personnes. Et quand je suis arrivé, bien sûr, j'ai prié. Et de suite, j'ai vu que dans l'église, il y avait une femme, une chrétienne, qui vivait avec un homme, sans être mariée. Et je lui ai dit, mais comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? En plus, elle venait, elle prenait la Sainte-Cène, mais tranquille, hein. Et bonjour, on a mis ça en ordre. Il y avait deux frères, deux mêmes frères, dans le conseil, deux beaux-frères, ils étaient deux beaux-frères dans la vie. Ils étaient en Christ, ils venaient à l'église tous les deux, et ils ne se parlaient pas. Et je leur ai dit, mais si vous mourrez, vous allez aller à l'enfer, et vous venez là comme ça. Alors s'il y en avait un qui venait un dimanche, l'autre qui venait le dimanche après, au conseil d'administration, non mais c'est pathétique. Oui. Il y en avait un qui, quand il y en a un qui venait, l'autre ne venait pas. Et un jour je les ai réunis, je leur ai dit, écoutez, croyez que c'est comme ça que ça marche? Je dis, moi je me fais du souci si vous deviez mourir. Oh, c'est beau, c'est beau. Ils sont morts en 9 mois de la même façon, à 5h30 du matin, tous les deux, un arrêt cardiaque. Ils s'étaient réconciliés quelques jours avant. Il y avait une femme dans l'église qui troublait, mais qui troublait vraiment. C'était un loup, mais vraiment un loup. Et j'ai dû la mettre en discipline, comme dit la Bible. Ça a pris 2-3 mois. Ceci est arrêté, béni. Un mardi soir, il y a un monsieur qui vient, commerçant de Groyer, avec sa femme, dans le désespoir. Ils arrivent, Monsieur Gault, notre fille, elle a été kidnappée, ça fait 2 mois. 2 mois et demi ou 3 mois qu'on ne sait pas où elle est. Elle a été kidnappée, je dépense mon argent pour des détectives privés. J'ai fait travailler l'ambassade d'Algérie, l'ambassade de France, la police, la gendarmerie à Toulouse. J'ai dépensé un pognon fou, on est désespérés. Pendant 2 heures, je me rappelle, c'était de 10h du soir à minuit. Mais voilà, ils étaient. Imaginez-vous, votre fille qui est séquestrée depuis 2 ou 3 mois. Mais on avait obéi. Parce que la foi, il faut bien le dire, la foi, c'est l'obéissance. Et ils m'ont parlé, bon, c'était minuit. Je leur ai dit, écoutez, est-ce qu'on peut prier pour votre fille? Ah bon? J'ai dit, vous savez, Dieu, il sait où elle est, votre fille. Dieu, il sait où elle est. Et on se met à genoux, je me rappelle, on s'était mis à genoux dans l'église. j'ai prié une minute. J'ai dit, Seigneur, tu sais où elle est, cette petite. Alors tu permets qu'on la retrouve. Amen. Il me regarde. Déjà? Ben oui. Déjà, vous avez fini de prier? Ben oui, Dieu a entendu. Mais il sait où elle est. Ah bon? Bon, j'ai écouté, c'est l'heure. Moi, je me levais à 5h30 le matin. J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît. Ils sont partis. Le matin, à 9h, Le téléphone sonne. Monsieur Gault, on a retrouvé ma fille. C'est pas possible, vous le croirez pas. Je dis, ben si. Je vous assure que c'est vrai. Vous le croirez pas. Alors regardez bien. Mais regardez bien. Parce que Dieu ne calme pas que la mer. Dans un village du côté de Soual, les gendarmes traversaient une rue. Il y en a un qui dit à son collègue, arrête-toi, je veux demander un renseignement. Il va à une maison, il sonne, et dans cette maison, il reconnaît de suite, parce qu'il y a des photos, vous savez, la gendarmerie, un gars qui était recherché par la police, et c'était lui qui séquestrait la fille de ce futur chrétien. Vous ne croyez pas que le hasard, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Sérieusement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la foi, la vraie foi, pas la croyance, pas le fait de se promener avec sa Bible sous le bras. Moi, j'ai ma Bible à mon chevet, vous savez, moi, tous les soirs, je la touche, ma Bible. Non, mais moi, je vous le dis, vous n'êtes pas converti si vous parlez comme ça. Il faut que vous le sachiez. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le Seigneur pose une question, mais où est votre foi? C'est pas pour nous embêter. Et c'est quand Jésus a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Bon, moi je trouve que c'est déjà pas mal qu'il fasse la démarche, Pierre. Non? Vous l'auriez fait, vous, cette démarche, vous? Si c'est toi, ordonne. Est-ce que vous l'auriez fait? Tiens, allez, levez la main, ceux qui auraient fait comme Pierre. Ah, moi, j'aurais pas pu le faire. J'aurais même pas pensé. Moi, je serais resté calé à ma barque. J'aurais dit, bon, écoute, qu'il vienne vite, le plus vite possible, si c'est lui qui vienne. Mais j'aurais jamais pensé à dire, si c'est toi, ordonne que j'aille. Non, mais il faut y penser. Mais voyez, Dieu, il ne peut nous faire faire des expériences, mais à un moment donné, il faut que nous comprenions bien qu'il faut une véritable foi. Et que dans une église, il faut veiller à ce qui est de l'ordre aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est bien joli de poser la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mais oui, il faut que dans une assemblée, nous ayons cette honnêteté, cette vérité de dire, voilà, si ma vie n'est pas en ordre, il faut que je la mette en règle. Je vous ai dit qu'on aurait un jeûne et prière le 16. Normalement, le premier dimanche du mois, c'est le jeûne et prière. On le fait en principe le premier dimanche du mois, c'est comme ça, c'est bien. Mais en priant hier, je me suis dit, ça serait bien que l'on prie ensemble, un moment, qu'on jeûne. Peut-être vous n'avez jamais prié, jeûné. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. D'autant plus que Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Mais est-ce que vous ne pensez pas, une fois tous les 16 ans, que l'on se bloque 1h15, 1h30 ensemble, après un culte, et que, dans la vérité, dans la simplicité, on puisse se dire, voilà, on va passer 1h30, 1h15 ensemble. Alors je sais que si on prend des médicaments, il faut manger, ben, vous prenez un casse-croûte, vous allez à côté, vous revenez. Mais il y en a qui ont peut-être à cœur de jeûner. Je crois à la puissance du jeûne, quand on obéit à Dieu. Parce que tous les sacrifices n'ont aucune valeur, aucune, je dis bien, si on n'obéit pas. Si on n'obéit pas, ça ne sert à rien de jeûner. Vous connaissez tous ces textes, je déteste vos cantiques, je déteste vos sacrifices, je ne supporte pas. Quand vous m'offrez, je détourne la tête. Il y a des choses que pourtant, on pourrait dire, oh, Dieu doit aimer ces beaux cantiques. Non, Dieu aime l'obéissance. La foi, c'est une foi d'obéissance. Justement, on a 15 jours, on va avoir le camp à Berlat. Est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'ensemble, nous nous disions, mais on va prier ensemble pour nos enfants. Cette veuve, la parabole, je n'ai pas le temps d'en parler, qu'on a lu dans l'évangile de Luc au chapitre 18, c'est Jésus qui l'adresse. Il n'y a pas que la question de la faim. Il y a toute la parabole où on voit une veuve qui dit, mais fais-moi justice. Elle a le droit pour elle. Cette femme, pourquoi elle insiste? Elle insiste parce qu'elle a le droit pour elle. Elle a une parole de l'État législatif. Elle a une parole. Elle sait qu'elle a droit à justice. Et le juge, un mauvais juge, moi, déjà, j'en ai marre qu'elle me casse la tête. C'est ça qui est écrit. Et il lui fait justice. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que nous, on a des paroles dans le Saint-Livre? Est-ce qu'on a des paroles, des promesses pour nous? Est-ce qu'il y a des promesses qui nous concernent, qu'on peut dire à Dieu? Bien sûr, si c'est l'argent, je ne crois pas. L'amour de l'argent, ce n'est pas bon. Mais tiens, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, mais mes enfants, tu veux qu'ils soient sauvés? Oui ou non? Est-ce que Dieu veut que vos enfants soient sauvés? Oui. Mais même celui-là, là, mon fils, là, celui, le mulet? Ben oui. Vous savez, dans l'église, il y a un couple qui vient au Seigneur. C'était tellement... Ils m'ont demandé d'y aller deux fois, je n'ai pas été. Vous savez, pour ne pas y aller... Et ils m'ont dit dimanche, vous avez bien fait. C'était entre nous et Dieu. Mais c'était archi compliqué. Mais les filles de ce couple sont dans l'église. Et ça fait des années qu'elles prient. Et ce couple, il est revenu au Seigneur. Moi, je dis que c'est une double victoire. Est-ce qu'on a des promesses dans la Bible qui nous prouvent que Dieu veut bénir nos enfants, nos parents? Cette foi que Jésus... évoque, est-ce que vous vous rendez compte que par la foi, on peut tout changer? Dieu peut changer. Vous vous rendez compte, parce que c'est un sujet inépuisable. Hier, je pensais que Dieu, quand il parle, quand il se présente, surtout dans l'Ancien Testament, il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut le faire quand même. Vous connaissez Jacob? Comment il a commencé? Vous avez vu comment il a commencé ce beau nom. Vous avez vu, il s'appelle Jacob. Jacob parce que quand il est né, il tenait le talon de son frère. Enfin, ça commence, ça veut dire le supplanteur, le trompeur. Quand vous voyez la vie de Jacob, quand vous étudiez la vie de Jacob, vous dites, mais Dieu ne peut rien faire, ben dit pareil. Hier, je lisais dans les Hébreux, dans le chapitre de la longue liste des héros de la foi, c'est par la foi que Jacob, appuyé sur son bâton, bénissait ses petits-enfants, puisque c'était les enfants de Joseph. Cet homme tordu, non seulement a vu que Dieu a changé son nom, il lui a dit à un moment donné, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu ne peux pas porter son nom, ce n'est pas possible, tu t'appelleras celui qui lutte avec, pas contre. Ouais, contre, ce n'est pas bon. Il y en a qui ont lutté contre Dieu. Et là, c'est un lapsus. Avec Dieu. La foi, c'est lutter avec le Seigneur. Et Dieu a dit, écoute, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Mais moi, je dis, longtemps, dans mon ignorance, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu t'appelles, tu aimes, parce que c'est souvent le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moi, je ne me serais jamais appelé le Dieu de Jacob. Mais quand vous voyez comment Jacob, il termine sa vie, il meurt en bénissant ses enfants. C'est pas beau, ça? Mes frères et sœurs, est-ce que c'est de la religiosité? Vous pourriez me refaire ce reproche. De proposer un jeûne et prière pour que nous nous associons, parce que ça plaît à Dieu quand on s'accorde tous ensemble, pour qu'on prie tous ensemble pour nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos frères. Vous allez lire, c'est un mulet. Mais quand on voit comment était Jacob, bon, je trouve que Dieu a quand même, il peut changer les catégories. Quand on voit comment était Saul de Tarse, vous croyez que Dieu peut changer les Saul de Tarse? Il n'y a pas besoin d'un coup de main. Il y a besoin de prière. Cette foi, quand Jésus pose la question, trouvera-t-il la foi? C'est pas... Cette question a été posée à tous les chrétiens de tous les siècles. Tous les siècles ont entendu, tous les chrétiens dans toutes les véritables églises ont entendu cette question, trouvera-t-il la foi? Mais ce n'est pas une foi qui nous fait venir à l'église le dimanche matin. C'est une foi qui fait reculer les ténèbres. C'est une foi qui délivre les gens de leurs démons. Vous croyez que Dieu peut délivrer des démons? Vous croyez que Dieu peut guérir? C'est cette foi-là, une foi vivante. On l'a chanté, par la foi, je marcherai. C'est pas ça qu'on a chanté tout à l'heure? Par la foi. Mais vous le croyez? Alors est-ce que vous croyez qu'on a une promesse qui nous permet de dire, mais Seigneur, oui, on peut s'approcher du trône de la grâce. Seigneur, sauve nos enfants. Sauve mon frère. Sauve ma sœur. Sauve mon père. Quel que soit leur caractère, vous croyez que Dieu, il sait comment parler à votre père, à votre mère? Vous croyez que Dieu, il sait comment parler à votre fils? Vous croyez? Vous croyez que Dieu peut changer le cœur d'un de nos enfants? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il va revenir. Écoutez, hier je regardais, là, parce que je vous le dis parce que c'est quand même intéressant, je regardais parce que je lisais Ézéchiel, vous savez que les frontières d'Israël, pendant le millénium, vous avez vu ce qui se passe à Damas, au-dessus? Quand vous lisez Ézéchiel 47-48, vous avez la description du territoire d'Israël pendant le millénium. Tout ce qui se passe là en Irak, en Turquie, là. Non mais écoutez, franchement, quand vous comprenez ces choses, vous réalisez qu'on est en train de vivre les derniers jours. Alors que Dieu nous garde à la fois du péché et que Dieu nous garde de la rébellion. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, à vous mettre à genoux, s'il le faut, tout seul ce soir dans votre chambre, et de dire, mais est-ce que je suis soumis à mon patron? Parce que quand je vois comment certains parlent de leur patron, mais si vous parlez comme ça, des patrons, des policiers, de ceux qui sont au-dessus de vous, arrêtez de prier. Ce n'est pas la peine que vous priez pour rien. Ou alors ça vous fait passer du temps, ou ça vous fait croire que vous êtes spirituel. Si ça vous va, ben c'est bien. Mais moi je peux vous dire que Dieu n'exaucera pas vos prières. Mais si déjà dans le couple, vous vous soumettez à votre mari, et votre mari bien sûr se met à vous aimer parce que je crois qu'il faut qu'il y ait de l'amour, mais même si une femme n'est pas aimée de son mari, alors on va attaquer un sujet, une sourire, est-ce qu'elle doit se soumettre quand même? On va arrêter là le sujet. On en reparlera parce que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas rire, parce que les ossements de nos prières sont conditionnés à ça justement. Et le diable, il le sait. Mais cette question de Jésus, vous comprenez bien, moi, des fois, je pose des questions, elles sont intéressantes, elles sont utiles, mais là, elles sont vitales, ces questions. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alors, le 16, c'est dans 15 jours. Voilà, vous voyez, c'est 11h30, 11h25, le culte va s'achever. Ce qu'on fait, on se congratule, le 16, on se fait un petit bisou, on discute, et à midi, on jeûne, à la fois pour nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, que ce soit des gentils ou soit des mulets, ce n'est pas grave. Et en prime même temps aussi pour le local, pour savoir ce que Dieu veut. Parce que je crois qu'il faut qu'on soit d'accord. Il y a les pleins de feux rouges qui sont passés au vert, bon. Mais moi je crois que c'est bien qu'on soit tous d'accord pour cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord? On prie pour nos enfants, nos familles, et en même temps, on prie pour le local. Parce qu'il y a une foi que Dieu bénit. Il y a la croyance, la religiosité, le mysticisme, l'excitation, tout ça, Dieu ne le bénit pas. Dans des églises, ça donne un semblant de vie, les gens, ils sont là, ils s'excitent. Il n'a pas dit, trouverai-je des gens excités ? Trouverai-je la foi ? La foi, je le répète, c'est l'obéissance. Alors, on a 15 jours. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse... Parce que je le crois. Moi, je ne sais pas si Jésus tarde. Peut-être c'est un de vos fils qui est inconverti qui va me remplacer. Est-ce que c'est possible ? Quand ma mère, elle me voyait prêcher, elle me disait, j'ai du mal à le croire. 30 ans après, elle me dit, j'ai du mal à croire que t'es pasteur. J'ai dit, si, mais c'est vrai, je t'assure, c'est vrai. Je crois en Jésus maintenant. Mais ça me fait drôle, elle me disait. J'ai dit, ben ouais, c'est vrai. Je t'assure, je suis converti. Et c'était des moments de joie, bien sûr. Mais peut-être que c'est votre fils, le plus mulet, qui me remplacera un jour. Ça serait bien. Non ? Ben oui. Oui, c'est bien. Que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce qu'on peut terminer ce culte ? En disant cette question, Seigneur, je vais y répondre. Je vais y répondre. Peut-être pas maintenant, mais tiens, toute la semaine. Je vais utiliser du temps pour m'appliquer à cette question. Parce que si votre foi est vivante, croyez-moi, vous serez prêts quand Jésus va revenir. Et je pense toujours à mes pauvres frères et sœurs qui ne sont pas prêts, qui sont rebelles ou dans le désarroi et qui seront dans le désarroi. Prions quelques instants, prions. Seigneur Jésus, chaque question que tu as posée est intelligente, nous le croyons, et utile pour chacun de nous. Seigneur, tu as voulu nous rappeler que nous pouvions nous appuyer sur toutes tes promesses, que tu feras justice à tes élus. Mon Dieu, quelle grâce, que ce soit ici ou dans le ciel, qu'importe Seigneur. Mais nous te faisons confiance parce que nous croyons que toi, tu es vraiment un juste juge. Non seulement un juge, mais tu seras surtout notre avocat devant le Père. En vérité, tu le sais Seigneur, nous ne savons même pas quel mot utiliser pour t'exprimer la reconnaissance de ta grandeur, de ta souveraineté, de ta préscience. Et nous ne voulons pas être de ces pécheurs impénitants, de ces rebelles furieux. Nous voulons être de ces disciples soumis. Nous te prions, Seigneur, pour que dans l'Église, nous ayons la joie, parce que tu l'as voulu, de voir tous nos enfants sauvés. Nous le croyons, Seigneur, que tu as le pouvoir, si tu as changé le cœur de Jacob, Seigneur, si tu as changé le cœur de Saul de Tarse qui respirait le meurtre. Seigneur, on le sait, tu peux changer le cœur de tous. Tu as changé le cœur de Manassé. Seigneur, nous le savons, c'est clair, tu peux tout faire. Mais tu le fais quand l'Église prie, dans la sainteté. Alors ensemble, nous te prions pour que tu nous aides à te répondre d'une manière sérieuse, suite à cette question, quand tu reviendras. Nous te prions pour les églises d'alentour, nous te prions pour la pastorale de demain. Nous te prions, Seigneur, surtout pour les pasteurs, les églises qui n'ont pas de pasteur. Et je le crois, vraiment. Je le crois que même parmi nos enfants inconvertis, tu peux faire relever des hommes qui seront un jour de véritables serviteurs de Dieu. Seigneur, oui, tu as rejoint les tiens en marchant sur la mer. Mon Dieu, que ça devait être beau. Franchement, Seigneur, qu'est-ce que ça devait être beau. Que tu as calmé cette tempête en prononçant trois mots. Franchement, Seigneur, ça devait être merveilleux. Et tu n'as pas changé. Tu es le même. Tout pouvoir t'a été donné. Tu as été couronné d'épines. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous te voyons couronné de gloire et d'honneur. Seigneur, tu vois ce jeûne et prière que je voudrais, que nous aimerions organiser. Seigneur, conduis toutes choses. Oui, Seigneur, merci. Tu feras justice. Tu as le pouvoir que ta maison soit une maison de prière pour toutes les nations. Merci, Seigneur Jésus. Amen.